Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Radio Emma en live de l'hôpital Salvator où on vient en fait d'écouter Flesh Love qui est venu nous rendre visite. Merci beaucoup d'être venu.
Grand plaisir.
Et vous pouvez encore l'applaudir pour la performance.
Merci.
Alors là, on vient d'écouter effectivement quatre chansons que tu nous as chantées, qui étaient magnifiques. Enfin, je suis ravie qu'on ait pu écouter ça, qu'on ait pu faire découvrir ça aussi aux ados. Merci d'être là avec nous.
Avec plaisir.
On rappelle en fait donc que tu viens de Suisse, que tu as des origines berbères aussi. On est dans la multiculturalité, que tu étais avec un grand groupe important en Suisse avec lequel tu as fait le tour du monde des scènes. Et que depuis quelques années, tu as pris ton envol sous le nom de Flesh Love, justement, pour faire ton propre parcours et nous faire découvrir ton talent qui vole de ses propres ailes. Tu es engagé dans pas mal de causes, tu as fait plein d'actions qui nous touchent. Ça nous fait déjà plaisir vraiment de te recevoir ici. Et donc, on veut en savoir un peu plus sur toi.
C'est parti.
Forcément. Alors, Noémie, qui est là, va poser la première question.
Déjà, pour commencer, je voulais savoir. Comment vous écrivez vos textes? Qu'est-ce qui vous inspire?
Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui m'inspire? Par exemple, quand je vous ai parlé du morceau sur les fourmis, c'est que je venais de voir un documentaire sur, sur cette tribu en Amazonie. J'étais là, mais c'est incroyable, il faut que je le partage. Et à ce même moment, j'avais une passion pour les fourmis. Du coup, j'avais acheté des livres sur les fourmis. Et à un moment dans le texte, par exemple, je dis « Dicrocolium dendriticum », qui est une bactérie qui rentre dans les fourmis. Je me suis dit, il faut vraiment que je mette ça dans une chanson. Mais après, c'est presque même aussi des défis, parce que c'est vrai que c'est pas très courant de mettre le nom d'une bactérie dans une chanson. Mais voilà, en fait, dans ce cas-là, tu vois, il va y avoir un documentaire, à la fois qui va vibrer sur le fait d'avoir de l'empathie et de me dire, mais purée, si je me retrouve à la place d'un homme en Amazonie, est-ce que j'aurais envie de faire ça? Ouf, ça doit pas être facile. Donc il y a aussi ça. Mais il peut y avoir, dans le cas de Umusuna, où je parle de me rendre compte de mon potentiel, des lectures, un chemin personnel, spirituel, ça peut être santé, des discussions avec les gens, un tableau que je viens de voir, un plat que j'ai mangé, genre, non mais c'est vrai, je pense que je suis comme nous toutes ici, la somme de tout ce que j'ingère, je vois, je sens, je touche, donc ça se retrouve dans mes chansons après, c'est un peu poreux.
Ben, c'est des sources d'inspiration forcément, à la fois l'entourage, le quotidien, mais aussi tout ce que tu ressens. Et aussi le talent que tu as pour le faire ressortir derrière.
Oui, après ça se travaille aussi. On pourra en discuter. Non, mais parce que je trouve que c'est super important. Du coup, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, vous, plus tard. Mais toi, tu veux être chanteuse, par exemple.
Non.
Mais c'est vrai qu'on nous parle peu du parcours des gens. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va prendre Beyoncé. On va prendre l'exemple.
Queen Bee.
Non, mais l'exemple. Tout le monde a l'impression que ça a toujours marché pour elle, en fait. Mais il faut savoir qu'elle travaille depuis qu'elle a 4 ans, comme une folle, genre tous les jours. Que ses parents, il y a quand même des trucs, son père la faisait courir, sprinter à 6 ans dans le jardin. Et elle devait chanter en même temps pour justement développer son stamina. Et c'est des choses dont on parle peu. Et il y a un peu le fantasme de les gens pour qui ont réussi, ça a toujours été facile pour eux. Et je trouve que c'est vachement important. En tout cas, moi, ça me fait du bien d'entendre qu'un parcours, quel qu'il soit, même des gens que vous admirez le plus, que ce soit des cuisiniers, cuisinières, des astrophysiciens, physiciennes, des chanteurs, chanteuses, que pour tout le monde, c'est la galère à des moments. Et que pour tout le monde, on se casse la gueule à des moments. Et que dans les carrières de tout le monde, des fois, c'est compliqué. Et voilà, je trouve ça important de le dire parce que ça fait du bien. Parce que des fois, nous, on se retrouve à se dire, mais purée, pourquoi pour moi? Des fois, c'est la merde et j'ai l'impression que c'est la merde que pour moi. Non, c'est la merde pour tout le monde. Sauf qu'il y a des gens qui le disent que c'est la merde et d'autres qui ne le disent pas. Je pense que c'est ça la différence.
Et c'est très, très précieux ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est très important parce que souvent, quand les gens sont dans la lumière, on oublie tout ce qui les a amenés dans la lumière. On oublie les échecs dont ils se sont relevés, qui les ont rendus plus forts parfois. On oublie les efforts, on ne sait pas. Mm-hmm. Et on a l'impression que du jour au lendemain, on est une star. Alors qu'en fait, évidemment, non, c'est énormément de travail. Tout
et
ça.
Toujours quand on y est, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de ce qui traverse sur le moment. Je peux prendre l'exemple de Beyoncé, mais on ne sait absolument pas toutes les galères qu'elle vit. Parce qu'il y a cette idée de construire une image de, un peu demi-déesse. Plus c'est très, très américain comme façon de voir les choses. Mais voilà, du coup, pour dire que tout le monde galère à tous les niveaux, à des moments.
Et
parce
après,
que la vie, c'est ça aussi, quoi.
Tout à fait. Et après, elle construit cette image-là parce que c'est l'idée de faire rêver le côté paillette, effectivement. Mais ça vient avec du travail et on continue. On va reprendre pour le début du parcours ta question, une autre question, effectivement, Noémie.
Quel genre d'ado étiez-vous quand vous étiez petite? Est-ce que vous aimez chanter vous? Enfin, vous avez toujours aimé chanter ou au début, vous aimez d'autres choses?
Alors, assez jeune, j'aimais chanter, mais pas très juste. Je chantais pas très juste. Ça aussi, c'est important de dire que ça poussait du travail. ça... D'ailleurs, ma mère pétait un plomb avec ça. Tu chantes toujours, en plus, c'est hyper faux. mais bon, je sais pas pourquoi j'ai décidé de continuer. J'ai la tête dure. Quel genre d'ado j'étais ? Bah, moi, j'étais quand même bien perturbée. Hein. non, mais j'étais très en colère.
Ouais.
J'étais très, très en colère comme adolescente. J'ai eu un parcours un peu difficile dans le sens où j'ai une famille difficile. Avec un père très violent. Du coup, c'est vrai que j'étais beaucoup dans l'introversion. Je suis beaucoup rentrée à l'intérieur de moi. Et des fois, j'étais très extravertie pour montrer que j'étais là. Et à l'adolescence, c'est particulièrement ce moment-là où on se retrouve un peu dans l'un ou l'autre des extrêmes. Parce que c'est compliqué, en plus, de dire bonjour, j'existe à la société, au monde, de trouver une place, quoi. Donc, comme adolescente, j'étais quand même très en colère. J'étais très fâchée. Mais ce qui me faisait du bien, c'était justement d'écrire. J'écrivais beaucoup des chansons, pas toujours très bonnes. Comme je le disais, il y avait des bonnes chansons, il y avait des moins bonnes chansons. Et j'y faisais beaucoup de sport. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. J'ai commencé à faire du kung-fu malais quand j'avais genre 10 ans et je me suis retrouvée championne d'Europe 2 fois.
Allez.
Donc toute ma colère, je pouvais la mettre à me battre, mais sur le ring. Et donc voilà, j'étais une adolescente perturbée dans le sens où moi, je crois que genre dans mon adolescence, je portais aussi mon enfance, mm-hmm. en fait, comme aujourd'hui je porte mon enfance, mon adolescence, toutes les phases. Mais voilà, avec quand même une envie de faire. C'est-à-dire que j'ai assez vite pris conscience que les mots pouvaient changer le monde. Alors au début, je voulais être politicienne, mais je me suis dit, bon, ça me paraît un peu pourri comme si tu... Je vais pas pouvoir changer les choses comme je veux. Et je me suis dit, accompagner les gens dans leur vie avec la musique, je trouvais que c'était une belle façon d'être là sans être dans une forme d'omniprésence, omnipotence. Et que du coup, moi, ça me guérit parce que mes chansons, c'est aussi des petites thérapies. Et je me dis, ce qui peut me toucher moi et me guérir peut peut-être aussi toucher quelques personnes.
Absolument. Noor, ta question.
Comment avez-vous décidé de faire de la musique ?
J'ai la tête dure, c'est vrai que je sais pas trop. Pour être très honnête, il y a plein de choses qui me passionnent. Il y a des gens qui vous savez, quand vous leur demandez pourquoi vous êtes cuisinier, j'ai toujours su depuis que j'ai 3 ans. Moi, c'est pas du tout ça. Sans doute, c'est quelque chose qui me passionne et la vie fait que j'ai fait des rencontres et tout et que je me suis retrouvée à faire de la musique. Mais j'adore l'herboristerie, par exemple. Je trouve fascinant la connaissance des plantes, donc je pourrais très bien me retrouver à un moment herboriste. J'adore les animaux et l'étude de leur comportement, je pourrais être éthologue. Donc, comment je me suis retrouvée en fait, c'est un peu la vie comme ça, des fois, il y a des choses qui se présentent. Et puis, ce que je trouve intéressant et excitant dans la vie, c'est qu'il n'y a rien de fixe, en fait. C'est que tu peux tout d'un coup décider de devenir cuisinière, cuisinier et décider ensuite de changer, de faire un truc qui n'a rien à voir.
Et puis, on a le droit d'aimer plein de choses dans la vie.
Ou d'aimer qu'une seule chose aussi, c'est très bien.
Voilà, tout est possible, toutes les palettes sont possibles, mais c'est vrai que c'est riche, tout ça. Et c'est une des façons d'exprimer aussi. Et puis, c'est un peu par rapport au point de départ dont tu parlais tout à l'heure, par rapport à la colère. D'exprimer ça à travers des textes qui deviennent des chansons et des chansons finalement qui deviennent des messages. Et tout ça, ça permet en fait aux gens de partager ça. Donc c'est pas mal.
En fait, moi je crois beaucoup, et ça c'est de nouveau quelque chose que j'ai un peu expérimenté dans ma vie, qu'on expérimente tous et toutes d'une façon, mais c'est que les mots sont des vibrations. Moi je crois à quelque chose, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle la pensée positive. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais moi quand j'étais petite, je m'étais dit, toute petite, mon premier concert, ce sera au Montreux Jazz Festival. Mais genre, Montreux Jazz Festival, c'est un immense festival en Suisse. Tout le monde se moquait de moi. Tout le monde me disait, mais tu joueras jamais. Mon premier concert de ma vie, là, était au Montreux Jazz
mais
Festival.
Mais non.
Et en fait, moi, je crois en quelque chose. C'est que je crois qu'on peut...
tellement qu'on pense fort à une
exactement.
Chose, ça se réalise.
En fait, c'est comme si on synchronisait ce qui se passait pour que ça arrive réellement. C'est comme si on envoyait l'intention que ça se passe et que du coup, toutes les portes de l'univers s'ouvrent pour que les choses se passent comme ça. Et en fait, la pensée positive, c'est même le ressentir. Moi, j'étais dans mon salon et je chantais et je m'imaginais au Montreux Jazz Festival. J'avais les frissons, j'étais à merci public. Genre, j'étais toute seule dans ma... Et en fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens font. J'ai découvert même des grands athlètes qui vont s'imaginer gagner une course, qui vont s'imaginer... Et en fait, c'est quelque chose qu'on nous apprend peu, mais c'est un outil extrêmement puissant qui est génial, qu'on peut tous et toutes faire. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, genre des fois, on a des envies comme ça et elles ne se réalisent pas. Du coup, on se dit, ça ne fonctionne pas. Non. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai lu et du coup, je l'ai expérimenté, que l'univers ou tout ce en quoi vous croyez, Dieu, voilà, quel que soit le mot que vous posez sur votre croyance, il a 3 réponses. Il a oui, pas tout de suite, ou j'ai mieux pour toi. Et en fait, on se rend compte souvent que les choses qu'on a souhaitées, qui n'arrivent pas, c'est pour une meilleure raison. Il y a quelque chose d'autre. Même les situations difficiles dans notre vie, elles amorcent quelque chose Avec le recul, on l'a purée. Heureusement qu'il m'est arrivé ça. Du coup, j'ai pas fait ça et j'ai fait plutôt ça. Genre. J'aime bien cette idée de sentir à la fois que j'ai un impact sur ma vie, mais qu'il y a quand même quelque chose autour de moi qui me guide et qui me protège. Ça me fait du bien et c'est des croyances qui sont aussi qu'on te retrouve justement, qu'on a un peu perdu maintenant, mais ça dépend des cultures, ouais. Mais qu'on retrouve beaucoup
dans le journalisme. C'est moins dur d'affronter les problèmes parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui nous aide.
Exactement. Et il y a des chemins de vie qui sont plus durs que d'autres, ça c'est vrai, et qui sont plus intenses. Après, il y a plein de croyances, il y a les croyances du karma, des vies antérieures, de tout ce qu'on peut apprendre pour avancer. Mais voilà, moi c'est vrai que du coup j'évite, digression de fou, du coup c'était pour dire que j'ai vite compris que les mots avaient une vibration et que du coup les chansons elles ont une vibration comme ça. Et que je peux demander des choses et que je peux partager des choses qui restent dans le niveau. Chaque mot qu'on prononce, il reste là pour toute la vie en fait. Et donc les bons comme les mauvais. Ça c'est pas facile. Il faut apprendre à avoir une parole plus ou moins impeccable. Les accords Toltec. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, non, mais c'est magnifique en plus tout ça. Okay. Et puis c'est vrai que ça donne espoir de se dire voilà, à force d'envoyer entre guillemets des messages à l'univers, quelques portes s'ouvrent et puis parfois ça revient. Et puis quand c'est pas la bonne situation, ben d'un mal peut naître aussi un bien. Et puis selon comment on appréhende aussi une situation, elle peut aussi se tourner finalement en sa faveur. C'est plein de choses qui peuvent naître de tout ça, quoi.
Oui, et puis c'est vrai que vraiment, un des points communs à tous les gens qu'on admire, qu'on connaît, les gens connus, c'est vraiment qu'ils pratiquent cette pensée positive.
Ah oui.
Ah oui, il y en a qui disent « je me suis vue là, j'ai toujours su que j'allais ouvrir ce restaurant ». Genre, quand on se met à écouter même les grands sportifs, ils ont toujours su et ils travaillent. Il y en a même qui visualisent toute leur course automobile, comment ils vont la réussir. Genre vraiment, le cerveau est aussi un outil très puissant qu'on n'utilise pas. On n'utilise pas vraiment beaucoup de
10%.
Capacités. Ouais, tu vois, t'imagines tout ce qu'on peut faire avec son cerveau.
C'est sûr. Noor, est-ce que tu veux continuer avec une autre question?
Oui. Okay. Quel conseil pourriez-vous nous donner pour se lancer?
Eh bien, se lancer. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire se lancer et accepter que c'est un processus et que des fois, on se plante et qu'on apprend, en fait. Moi, je crois que c'est ça, se lancer. Parce que, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à produire, donc produire les morceaux, ça veut dire donc écrire la musique et puis ensuite choisir les sons, travailler tout ça. Mais il y a 4-5 ans, je ne l'avais jamais fait avant et je me suis dit, bah, j'y vais. Et franchement, si je vous ai écouté les premiers trucs, franchement, c'était nul. Non, mais il y a des trucs, c'était nul. Et ce n'est pas grave parce que j'en ai fait plein d'autres, j'en ai fait plus. Et voilà, donc c'est juste se lancer en fait, faire.
Une fois, il y a un artiste qui nous avait suggéré, par exemple, de faire plein de bars, de chanter devant ses copains, de chanter en fait le plus possible. D'autres nous disent il y a aussi Internet, les réseaux sociaux. Est-ce que tu préconises toi quelque chose ou tout est bon justement pour essayer de toute façon de faire quelque chose, soit de se confronter à un public, soit d'essayer de propager un petit peu ce qu'on fait.
Bah franchement moi je vous préconise aussi de vous écouter. Je pense que l'intuition c'est quelque chose qui vous dira. Je pense qu'il y a pas un seul chemin. Les réseaux sociaux ça peut être super pour certains, ça a marché, ça a lancé des carrières par exemple dans la musique. Pour d'autres c'est, en fait franchement moi je préconise de s'écouter et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi.
Est-ce que tu veux continuer?
Et est-ce que votre adolescence a eu un impact sur votre parcours,
Oui, toute ma vie a eu un impact sur mon parcours. Mon enfance a eu un impact sur mon parcours. Je pense que ce que je trouve très intéressant, c'est que il y a quelque chose que j'ai découvert. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'enfant intérieur. Non, ça vous dit quelque chose ou pas? Il y a un courant qui dit qu'en fait, souvent quand on est blessé, quand on est triste, quand on pleure, quand on est en colère, cette réaction-là, c'est pas la réaction de vous maintenant, mais c'est qu'on a touché sur une corde, sur une blessure de votre enfance, et que du coup vous réagissez. Et en fait, ça, c'est quelque chose que moi, je porte beaucoup et sur lequel je travaille beaucoup et qui est très présent dans ma musique. C'est cette conscience que, en fait, l'enfant, il est là, il faut prendre soin de lui et qu'on peut devenir son propre parent. Et donc, le travail, c'est de vraiment prendre soin et de se dire, ouh là là, je suis en colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me touche ça. OK, il s'est passé ça quand j'étais petite. OK, donc je vais rassurer mon enfant et je vais lui dire, ça va aller. C'est pas maintenant, je prends soin de toi. Genre, moi, ça, c'est des choses qui ont beaucoup d'impact sur moi. Et de savoir qu'on peut être son propre parent, je trouve que c'est très joli. Parce qu'il y en a qui ont des bons parents, des moins bons. Mais en fait, vos propres parents ont eu leurs propres blessures. Et ils ont fait comme ils ont pu. Mais de savoir que maintenant, vous pouvez prendre soin de vous. Moi, c'est quelque chose qui a un immense impact dans ma vie. Vraiment. Et qui a un processus. Mais petit à petit, tu te rends compte que tout est connecté. Voilà, du coup, quand tu me poses la question de l'impact de l'adolescence sur moi, tout est connecté. Moi, je vois ça comme une longue trame. C'est comme si moi, genre, j'étais là maintenant à 29 ans et que je donnais la main à toutes les flèches love de 0 à 29 et qu'elles sont toutes là en fait.
Magnifique.
Après, ouais. Chacun le prend comme il a envie de le prendre. Mm-hmm. Mais en tout cas, cette question de se reconnecter à l'enfant, je trouve ça beau parce que c'est pas que pour les blessures, c'est aussi pour les bons moments. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui oublient qu'ils ont été enfants et qui voient la vie comme quelque chose de genre travail, machin. Mais l'enfant intérieur, c'est aussi l'enfant de celui qui a les rêves. C'est celui qui sait s'amuser. C'est celui qui sait s'émerveiller. Et cet enfant-là, on a tendance à beaucoup l'oublier. Donc on peut aussi lui demander d'être présent dans les beaux moments, en fait, de reconnexion.
Tu parlais tout à l'heure des inspirations que tu recevais, des choses que tu découvrais ou qui te parlaient, qui t'émouvaient. Est-ce que l'imaginaire fait aussi partie de tes inspirations ?
Ah oui, mais moi, alors du coup, quand j'étais enfant, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ça, mais moi, j'avais un monde imaginaire. J'avais un ami imaginaire et je pense que jusqu'à mon adolescence, j'avais une vie imaginaire.
Ah oui ?
J'avais une double vie. C'est-à-dire que j'étais là, assise, là, j'aurais pu être là, assise, et en même temps, j'aurais pu être genre sur un cheval au Maroc, genre une guerrière... Mais vraiment, c'était une espèce de dédoublement de la personnalité que j'ai eu, qui m'a sauvée. Parce qu'en fait, il y a une chose aussi qui est intéressante à dire. C'est que tout ce qu'on met en place, même les choses qu'on trouve qui sont négatives, c'est de la protection. Et pour ça, on peut remercier son cerveau et son corps de nous protéger. Parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que toutes ces choses-là sont mises pour nous protéger. Nous protéger des autres, de notre famille, de nous-mêmes. Et donc, des fois, c'est des systèmes de protection qui sont tellement forts qu'on n'arrive plus à les casser. Là, du coup, on leur en veut. Mais en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que mon imagination, parce que je lisais beaucoup, était là pour me protéger d'une réalité qui n'était pas très agréable. Et du coup, après, ce qui est compliqué, c'est de trouver le juste milieu entre remercier cette imagination et l'utiliser pour faire de la chanson et être aussi un peu dans l'instant présent. Donc après, c'est aussi, tu vois, des... Comment dire, c'est des questions d'équilibre. Exactement, c'est toujours le mot-clé, ça, c'est l'équilibre. Mais ouais, du coup, ça, je trouve ça important parce que moi, c'est quelque chose que j'ai compris tardivement, que tout ça, c'est de la protection. Et qu'en fait, on a tous et toutes des moyens très différents et variés de se protéger. Mais c'est plutôt beau de se dire et de s'honorer, de se dire waouh, en fait, je me protège. Des fois, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se protéger, mais en fait, on y arrive avec des moyens divers et fous. Et... mais on se protège tous et toutes, vraiment.
Est-ce que la musique, elle a permis de vous accepter pendant la période de l'adolescence, parce que...
Moi, la danse, elle m'a beaucoup aidée. Alors là, pour le coup, je vous ai pas trop fait de la danse parce que, bon, voilà.
Non, mais on sentait qu'il y avait des petites impulsions qui étaient là.
Non, au contraire, je danse beaucoup. La danse, ça m'a beaucoup aidée parce que vu que j'étais tellement mal dans ma peau, tellement mal dans mon corps, quand je dansais, en fait, je sentais plus mon corps. Il y avait une question de... Je dépassais cette sensation d'être juste ce corps et tout. J'étais le mouvement, en fait. Mmh. Et j'étais plus statique. Et ça m'aide beaucoup encore
et
maintenant.
Et maintenant, vous acceptez vraiment ?
Non.
Non.
Ah, non. Bah, non. Non, honnêtement, non. Franchement, non, il y a des moments où je me déteste, il y a des moments où c'est super dur, où je me dis, mais purée, mais est-ce qu'il y a un moment où je vais trouver une paix intérieure ? Est-ce que cette paix intérieure existe-t-elle ? Et est-ce qui me rend pas malheureuse, c'est de chercher quelque chose qui n'existe pas ? C'est pour ça que je vous disais à un moment ce truc d'acceptation, mais c'est quelque chose que je commence à comprendre. C'est que maintenant, je me dis, mais en fait, ok, les choses sont comme ça, et j'essaie de plus les laisser passer et d'accueillir les différents états, et de me dire, mais en fait, un être humain, il est fait de plein d'émotions différentes, de palettes, c'est ça qui est intéressant. Et ce fantasme qu'on nous vend d'être tout le temps heureux, il n'existe pas. En fait, on ne pourrait pas se rendre compte qu'on est heureux si on est tout le temps heureux. Mmh. Parce que la vie, c'est des contrastes. Tu te rends compte que tu vas bien quand tu vas mal, des fois. Si tu vas tout le temps bien, tu ne te rends plus compte.
Non, je veux dire, tu apprécies le beau temps parce qu'il y a de la pluie,
exactement.
Justement. Effectivement, c'est des contrastes qui permettent de relativiser les choses.
T'apprécies le salé parce qu'il y a
du sucré,
genre sinon...
Bien sûr.
Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est, moi, je trouve super important et qui m'aide beaucoup. Mais non, franchement, après, je sais pas, il y aura peut-être quelqu'un d'autre de 29 ans qui viendra au micro et qui vous dira « moi, je m'adore », ce que j'espère de tout cœur.
Non, ce qu'on entend quand même, pardon, c'est cette idée de se dire « il y a de l'acceptation de ne pas s'accepter quelque part
oui. »,
mais l'acceptation aussi qu'il y a quand même des moments, je pense, où comme tu as compris certaines choses et accepté certaines choses par rapport à quand tu étais plus jeune,
oui.
où c'était plus douloureux, là, oui. ça l'est moins.
Oui, et puis après, de nouveau, il y a des blessures d'enfance, comme je disais, qui sont réactivées.
Ouais.
Et en fait, une bonne blessure, elle prend du temps à cicatriser. Il faut la nettoyer. Puis après, il faut qu'elle cicatrise. Et ça aussi, c'est accepter que les choses prennent du temps.
Ouais. C'est important.
C'est dur.
Et c'est dur.
C'est super dur. Mais non, il y a des moments où je doute. Il y a des moments où je monte sur scène et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Tout le monde va se moquer de moi. Genre, vraiment, non, il y a de tout. Il y a des moments où je me dis, mais ma musique est nulle. Et puis après, je me dis, mais ma musique est géniale. Genre, il y a un truc un peu de genre...
C'est ambivalent.
Ouais, complètement.
Ça avait l'air de t'inspirer autre chose, hein, Noémie.
Parce que du coup, vous avez beaucoup de tatouages.
Ouais.
Et ils ont tous des significations, je pense.
Écoute, la majorité, c'est des tatouages de protection. Justement, au début, c'est vrai que moi, la génération de mon arrière-grand-mère, les femmes étaient toutes tatouées le jour de leur mariage et c'était tous des tatouages de protection. Dans le cas de ma grand-mère, elle était forcée. Moi, dans le cas de ma génération, bah, j'ai décidé de le faire, donc c'est une autre approche.
De protection en tant que superstition ou de protection...
Oui, ouais. Bah, dans le sens où, par exemple, pour vous de... je ne sais pas, là c'est quoi c'est...
La flèche, enfin les...
Ouais. Alors ça, par exemple, c'est le squelette d'un poisson, donc c'est comme ça que...
Ah oui.
C'est ça que ça représente. Et ça représente la fertilité, mais aussi la protection. Et par exemple, ça s'appelle la grenouille.
Qui est plus une forme de losange, ouais. Dis pour la radio. D'un côté, en fait, on a une colonne vertébrale, enfin une ligne droite avec des petits pics. Et de l'autre côté, on a un losange, effectivement,
oui, qui s'appelle qui est censé symboliser une grenouille. Et ça, c'est les pouvoirs magiques. Ça te donne des pouvoirs magiques et ça te protège. Et en fait, moi personnellement, quand tu me demandais genre qu'est-ce qui m'a aidé à me sentir mieux dans ma peau, pour le coup, les tatouages, ça m'a beaucoup aidé. Parce que justement, j'étais un peu, je trouve assez violent comme expérience d'avoir un visage que t'as pas choisi et qui doit te représenter au monde et t'es là, bon bah voilà, ça c'est bon, du coup je m'appelle Amina, ça c'est Amina, je crois que c'était super violent parce que moi je me voyais complètement différemment, j'aurais voulu être complètement différente ou du moins je pensais que j'aurais voulu être différente. Et donc le tatouage, ça m'a permis de rajouter sur mon corps que j'avais pas choisi quelque chose que je choisissais et dans le cadre de mes tatouages de protection et donc c'est vrai que je me sens protégée avec mes tatouages.
Et vous les acceptez tous, genre vous n'en avez pas que vous regrettez?
Ah oui, non mais oui, il y en a que je regrette. Non mais en fait, moi j'ai comme temps.
Bonne question,
non,
bah, bonne
oui.
Question.
Non mais tu sais, moi je suis très impulsive comme personne.
Ouais, faire les choses.
Après... un jour j'en ai fait 12 d'un coup. 12 en deux jours.
Oh.
Voilà. Mais en fait, je suis allée voir mon tatoueur qui habite à Toulouse et moi j'habitais à Genève, donc c'était assez loin. Et je me suis dit, non mais purée, en plus il est jamais disponible. Je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse tatouer. Et c'était une idée horrible, mon corps, il m'a genre envoyé des signaux, genre ne fais pas ça, parce qu'en fait, t'as pas vraiment le temps de cicatriser, parce que c'est assez douloureux, ton corps n'a jamais le temps de se reposer. Et il y en a dedans, dans l'eau des douze, parce qu'il y en a certains, j'ai dû trouver sur le moment, qui sont un peu moins bien. Mais en fait, pourquoi pas? Finalement, le lâcher prise et l'acceptation, c'est aussi ça. Et je sais maintenant, je commence à me connaître un peu. En plus, j'adore l'astrologie, donc c'est pour ceux qui connaissent. Je suis bélier ascendant lion, donc c'est impulsivité ascendant impulsivité. Donc du coup, je sais que bah, des fois, je fais des trucs comme ça sans réfléchir. Et des fois, c'est positif. Des fois, c'est négatif. Des fois, c'est pas très grave aussi. Voilà.
Tout à l'heure, donc, tu revenais sur ton nom, Amina. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce nom Flesh Love et qu'est-ce que ça symbolise? Forcément, on est obligé de se poser la question.
Bah, en fait, du coup, je jouais dans un groupe avant et je suis partie, ça s'était pas très bien passé. Même ça, c'est pas bien passé du tout. C'est pas très facile d'être une femme dans l'industrie de la musique, mais d'être une femme dans beaucoup d'industries. C'est vrai qu'on aura tendance à vouloir vous dénuder pour vendre plus. Genre, t'es là, mais en fait, je chante, j'ai pas besoin d'être en string. Après, si t'as envie d'être en string et que c'est ton choix, c'est génial. Hein. Moi, je juge pas ça. Mais dans mon cas, à moi, j'avais pas du tout envie d'être en string pour vendre ma musique. Ou bien, par exemple, tu vas écrire la musique et les gens, ils vont tout de suite genre, dire que c'est pas toi qui as écrit parce que c'est pas possible qu'une femme produise quelque chose d'artistique ou de créatif. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'écrire dans mon mot l'amour et la bienveillance pour que jamais je l'oublie. Et que même à des moments... Parce qu'en fait, dans la vie, comme dans tous les métiers, bah, on trouve des gens qui sont pas toujours très bien intentionnés, qui sont blessés. Voilà. Et donc, du coup, mon idée, c'était, je me suis dit, si j'écris ça... Je pourrais plus jamais l'oublier. Même si j'essaye de l'oublier, bah, c'est écrit.
C'est gravé dans le nom. C'est gravé partout.
Je peux pas l'oublier.
Noor, tu voulais poser une question?
Vous avez commencé à...
Tu peux me tutoyer. J'ai commencé avec... Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend de ce que tu appelles par commencer. Tu dis genre à écrire ou...
La musique, tout en général.
Ou à se produire, peut-être.
Sur scène, mes premiers vrais concerts, c'était à 19 ans, c'était il y a 10 ans, au Montreux Jazz Festival.
Mm-hmm.
Premier concert.
Dans les scènes ouvertes dont on parlait tout à l'heure.
Avant, j'ai été dans les scènes ouvertes. J'arrive pas trop à dater vraiment quand j'ai commencé. Mais ce que je disais, tu vois, quand tout à l'heure tu me disais que t'écrivais à 12 ans, moi j'ai dit c'est super génial parce que vraiment, genre, tu commences tôt et tu vas apprendre de mieux en mieux et c'est génial de commencer super tôt. C'est vrai que moi j'ai commencé j'ai jamais vraiment fait des cours de musique, donc tout ce que je compose est instinctif, donc je fais comme ça, je ferme les yeux, je vois ce qui sort et du coup que t'aies commencé à 12 ans, c'est vraiment, je trouve ça génial quoi.
Ben écoute,
ouais, c'est trop bien, c'est prometteur. Je lui disais là, elle s'entraîne pour répondre aux interviews.
Tout à l'heure on l'a évoqué un petit peu aussi au niveau des causes dans celles dans lesquelles tu t'impliques. Quelle est encore l'importance, toi, justement, de t'impliquer dans ces causes-là?
Je sais pas, c'est un peu... Je sais même pas par où commencer, mais... J'ai besoin de sens, moi, dans ma vie, et j'ai besoin de justice. Et c'est vrai que les métiers d'artiste, c'est beaucoup des métiers d'ego. C'est moi qui me mets en scène, qui fais de la musique et tout. Et j'aime bien sentir que je me suis connectée aux gens et que je fais quelque chose d'utile. Et du coup, je me dis, j'ai une petite... je suis pas Beyoncé, hein, mais j'ai une petite visibilité, donc... J'ai envie de faire des choses qui ont du sens et de les relier Bah, par exemple, maintenant, j'invite des au lieu de vendre des CD à la fin de mes concerts, j'utilise ce temps pour inviter des associations dans chaque ville. Parce que je trouve que c'est intéressant, je trouve que ça crée du lien social aussi. Du coup, le public découvre des associations dans leur propre ville. Et ça permet de mettre en avant des causes qui me touchent, en fait. Parce que très vite, tout peut tourner autour de soi dans ce genre de milieu. Non, mais c'est vrai. Et on peut avoir l'impression qu'on est plus important que les autres parce qu'on est plus visible. Mm-hmm. Mais ce que tu fais comme métier, c'est fondamental, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et du coup, je me rappelle tout le temps ça, que c'est un métier comme un autre aussi. Avec sa spécificité-là, mais c'est pas plus important qu'un autre métier. Ça reste de la musique, en fait.
Est-ce que vous avez encore d'autres questions que vous voudriez poser ? Tu voulais en poser une tout à l'heure ? On va la relayer. Je vais relayer la question pour la radio. Tout à l'heure, tu évoquais que tu avais des origines algériennes. Est-ce que tu n'avais pas peur du regard des gens là-bas par rapport aux causes LGBT justement que tu défends, ou des causes qui sont un petit peu effectivement délicates, les transsexuels, etc.
C'est une excellente question. Et c'est une question qui est plus facile pour moi à répondre parce que j'habite pas en Algérie. Tu vois, et que du coup, c'est vrai que la majorité de ma famille habite en Suisse. Mais tu as bien raison. Ce serait plus compliqué si du coup ma famille était basée là-bas. Et après, je me rends compte que ça peut être clivant. Clivant, ça veut dire que ça peut diviser, c'est des causes qui divisent. Mais en fait, pour moi, c'est tellement important de parler de ça que je prends le risque peut-être de me fâcher avec certains membres de ma famille en Algérie. Mais c'est un choix personnel, parce que pour moi, c'est trop important. Mais t'as raison, effectivement, c'est pas si facile de parler de ça. Et je sais qu'il y a des endroits peut-être où je serais pas invitée à jouer, par exemple, tu vois, parce que je parle de ces thématiques-là. Mais je prends le risque, en fait, pour le coup.
Très bien. Encore une question ? Ouais. Est-ce que le gros tatouage que tu as dans le dos, qu'on voit dans les affiches, est un vrai tatouage ?
Ah oui. Tout ça, c'est du vrai. Non, c'était pas ça la question.
Ah, c'était pas la question, pardon.
Ça, c'est pour la vie. Tu sais, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est est-ce que vous n'avez pas peur de regretter ? Et j'ai envie de faire les choses par coup de cœur, en fait, sans réfléchir. Et,
profiter de la vie.
Ouais, voilà. Et je suis fière de mes tatouages. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que vraiment, ils m'apportent du réconfort et que c'est des tatouages aussi qui sont, comment dire, plus symboliques que esthétiques. Et il y a d'autres choses qu'on peut regretter dans la vie qui auront peut-être plus d'impact que un dessin sur son corps. Mais il y a des gens aussi qui se sentent enfermés. Moi, on m'a dit « Ah, mais moi, je me sentirais enfermée, condamnée. » Moi, je sais que je me rappelle aussi chaque moment où je les ai faits et du coup, ce que ça m'a procuré. Et bon, maintenant, j'ai 29 ans. Peut-être qu'on peut refaire l'interview à 56 ans. Et après, comment tu te sens ?
Mais ils ont tous, en tout cas, ils ont tous une symbolique. Ils représentent tous quelque chose pour toi. Ils ont tous leur importance. Ils ont aussi cette fonction de protection que tu évoquais tout à l'heure.
Oui.
Et donc, c'est des choses que tu ne regrettes pas
pour l'instant. Voilà, on va dire pour l'instant, je ne regrette pas.
Oui, une question là-bas. Juliette demande si tu as donc des projets, un album à sortir, à venir.
Oui, bah, du coup, j'ai sorti la première partie de mon album en mars passé. Et là, je sors la deuxième partie en mars. La tournée, je la continue. Là, j'ai commencé en septembre. Je suis partie au Canada, je suis partie en Corée.
Wow.
Je suis partie en Suisse, je suis partie en France. Moi, c'est vrai qu'aussi, ça me fait penser à ta question, pourquoi j'ai choisi d'être aussi chanteuse, c'est que moi, j'adore voyager. Et quand j'étais petite aussi, l'ethnologie m'intéressait. Je ne sais pas si vous connaissez. L'ethnologie, c'est vraiment l'étude des tribus, de certains savoir-faire qu'on trouve dans certaines tribus au Brésil, en Philippines. Voilà, il y a plein de tribus différentes. Du coup, ça me permet de découvrir les gens et de découvrir les gens d'une certaine façon. Parce que la façon qu'ont les gens d'écouter la musique est très différente dans chaque pays du monde. Par exemple, en Corée, ils crient tout le long. C'est très étrange.
Un peu hystérique, genre.
Ils hurlent tout le long du concert. Il n'y a jamais de pause. Alors qu'en Suisse, ils ne font pas de bruit. Et des fois, ils applaudissent. Et à la fin, ils disent « J'ai adoré ». Putain, parce qu'en plus, j'ai fait Corée-Suisse. Donc, le changement était hyper violent, hyper bizarre. Mais en fait, c'est un hyper bon moyen de connaître les gens. Tu connais beaucoup de choses, même en France, dans les différents endroits. Tu connais aussi plein de villages que personne ne connaît. Donc voilà, tu découvres la nourriture, tu rencontres des gens. Genre, que ta première connexion avec le pays soit des gens qui viennent écouter ta musique, je trouve que c'est assez dingue. Donc voilà, et pour te dire, est-ce que j'ai d'autres projets ? Franchement, j'en ai plein. En fait, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler, donc j'ai envie de faire des escape games. J'aimerais bien écrire, j'aimerais bien travailler sur de la musique avec les baleines. Genre, voilà, j'aimerais aller à l'île de la Réunion pour travailler avec des biologistes et tout, et créer de la musique pour, genre, jouer que pour les baleines, par exemple, et voir qu'est-ce qui ferait qu'elles s'approcheraient de moi, parce que ça a déjà été expérimenté par un musicien rhône avec lequel j'ai travaillé. Ils ont mis sa musique sur un bateau et toutes les baleines se sont approchées. Je trouve ça incroyable.
Wow.
C'est magnifique.
En tout cas, c'est très inspirant tout ça. On va faire les dernières questions. Nour, vas-y rapidement.
Vous n'avez pas peur quand vous chantez devant tout le monde ?
Oui, j'ai peur. Et effectivement, non, mais tu sais, c'est complètement pas du tout naturel d'être là toute seule devant plein de gens.
Mmh. Ça fait peur, non ?
Mais bien sûr que ça fait peur. Après, tu vois, moi, ça fait quoi ? Ça fait bientôt 10 ans que je tourne. Donc, avec le temps, tu commences à avoir un peu moins le stress. Et il y a des moments où je suis de nouveau pétrifiée. Mais en fait, je sais pas. Je pense que ça... En fait, j'ai l'impression que le jour où ça passera, j'aurais peut-être plus envie de monter sur scène.
En fait, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir le trac avant de monter sur scène. Mais oui. Une fois que tu es sur scène et que tu as commencé,
ouais,
t'es imbibé de l'énergie du public, t'es imbibé de ton énergie à toi. Et donc, effectivement,
t'as
tu passes un bon moment.
Aussi.
T'as cette adrénaline qui te pousse et t'as les réponses du public. Bon, quand t'as des Suisses, c'est toujours un peu plus hard.
C'est le trac qui te pousse à faire mieux.
Oui, aussi.
À te dépasser.
Puis aussi, il faut dire, tu vois, genre, des fois, tu vas dans des pays où t'es plus connu, donc t'as un public qui est plus réceptif. Puis des fois, tu joues dans des endroits où personne te connaît, donc il faut les convaincre. Des fois, tu joues dans des endroits où les gens, ils n'ont rien compris à ce que tu fais.
Ouais.
Genre, voilà, il faut aussi trouver une place à l'intérieur de toi.
Il faut s'adapter.
Il faut s'adapter et te dire, bon, bah voilà, je propose ce que je propose, je le fais à 100%. Et puis, comme tout dans la vie, il y a des gens qui vont apprécier, il y a des gens qui ne vont pas apprécier, mais ça ne remet pas en question la qualité de ce que je fais.
Bien
ça,
sûr.
C'est dur. Hein.
Mais oui, il faut arriver à se le dire, il faut arriver à prendre cette distance-là, effectivement. La dernière question, Noël, et après, on va.
Non,
est-ce
mais
que
je sais dire
berbère?
Bonjour.
C'était la question. J'ai
Azoul, mais j'aimerais beaucoup apprendre. Je parlais l'arabe quand j'étais petite, je chante en arabe un morceau, mais j'aimerais beaucoup apprendre le berbère. J'aimerais bien chanter en berbère. Parce que j'écris une chanson en breton, t'imagines, qu'est-ce qu'elle va dire ma famille? J'écris en breton et j'écris pas en berbère. Du coup, voilà.
C'est vrai, tout à l'heure, t'indiquais effectivement, pour terminer là-dessus, que tu chantais en arabe, en espagnol, en français. Cette multiculturalité-là, justement, qu'est-ce qu'elle t'apporte à toi? Comment elle t'enrichit?
Bah, moi, j'adore voyager. Et donc, quand je vais dans un pays, j'aime bien apprendre au moins quelques mots pour pouvoir communiquer avec les gens. Et en fait, les langues me fascinent parce qu'on ne pense pas de la même façon dans toutes les langues.
Mmh.
Et du coup, ça n'active pas des façons... Genre, par exemple, si tu prends l'allemand, qui est une langue, par exemple, « Wiedersehen », c'est « revoir ». Genre, c'est des espèces de mots valises comme ça que tu colles, qui te donnent une forme de structure que tu ne trouveras pas en espagnol, par exemple. Et je trouve que du coup, ça forge une autre façon de penser, une autre façon de voir le monde, une autre façon d'agencer sa pensée et aussi une autre façon de ressentir. Moi, c'est vrai que les langues, elles n'ont pas le même impact sur moi. Donc, c'est vrai que j'adore apprendre les langues parce que ça crée quelque chose dans la pensée qui est complètement différente. Ça crée quelque chose de vraiment intéressant. Une émulsion, comme ça. Une émulation. Une émulsion aussi. Mais oui, aussi.
Merci beaucoup. En tout cas, on va te remercier d'être venu. Vous pouvez l'applaudir. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec nous. Parce
grand plaisir.
Vraiment, c'était très enrichissant, très instructif et surtout passionnant. Et on aime ta vie, on aime ton énergie, en fait.
Merci.
Et je pense qu'on repartira avec plein d'inspiration de tout ça.
Merci beaucoup, en tout cas. J'étais très, très heureuse. J'ai pas pu parler avec chacune et chacun de vous, mais en tout cas, enchantée. Ça m'a fait très plaisir de venir ce matin.
Et on remercie également le festival Melting Art, grâce à qui cette rencontre a été possible, justement, Aude et Francine, qui nous ont permis de te rencontrer et de faire effectivement ce moment d'échange ici.
D'accord,
à la prochaine, à bientôt, et restez connectés. Ciao, ciao.